France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Je le disais, écrivain et poète belge, c'est en philosophe que Stéphane Hertmans revient à la littérature avec un nouvel essai qui se demande « Quel présent vivons-nous ?» dans lequel il interroge les notions de déplacement et de décentrement à l'ère de la post-vérité. Et face aux trois plus grands enjeux de notre temps, le changement climatique, la mondialisation et les flux migratoires. Alors comment penser le présent alors que les démocraties et leur légitimité se délitent outre-Atlantique et en Europe? Comment parler dans un espace public saturé d'informations, d'opinions, aux dépens sans doute du savoir et de la vérité? Un invité ce soir, vous l'aurez compris, Stéphane Hertmans, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, poète belge, je le disais, vous faites paraître aujourd'hui Quel présent vivons-nous? C'est aux éditions Actes Sud dans la collection Questions de société. Un grand merci d'être présent ce soir dans Questions du soir. Et j'entame notre discussion, Stéphane Hertmans, avec cette citation de Victor Klemperer que vous citez vous-même dans votre ouvrage. Le contemporain ne sait rien, nous sommes des témoins, même si nous ne savons pas encore très bien de quoi. En tout cas, nous sommes les témoins de cette actualité si difficile à déchiffrer et des déplacements que nous percevons chaque jour sans parvenir à les interpréter. Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire, le contemporain ne sait rien ?
Je crois que la citation l'explique nettement, qu'on est en train de vivre une période, certainement depuis la deuxième période de Trump, géopolitique, etc. On a pensé longtemps qu'on vivait une ère de penser le climat. On est en train de vivre de violences géopolitiques, une nouvelle ère de néocolonisation, de tensions monétaires, la perte de balance dans tout ce qu'on a connu dans l'économie du monde, la mondialisation, la globalisation, comme si on est déjà à une certaine fin de ce rêve de globalisation de Fukuyama de l'an 2000. On voit que tout ce monde post-soviétique, on a pensé qu'il était vraiment passé, cela revient comme un cauchemar. Ça veut dire que de jour en jour, on voit qu'on comprend pas trop bien dans quelle direction on est en train de bouger, parce qu'il y a tellement beaucoup de facteurs.
Mais pour moi, elle n'était pas si nette, justement, cette citation, cette expression. Est-ce que vous parlez de l'époque contemporaine, plus difficile peut-être à décrypter que les autres, ou bien l'homme des années 30, l'homme des années 50, l'homme des années 90 avait lui-même du mal à comprendre l'époque dans laquelle il était immergé?
Oui, là derrière cet énoncé, évidemment, cette pensée que on ne peut jamais comprendre l'événement, c'est exactement le caractère de l'événement qui fait quelque chose avec nous qu'on ne peut pas formuler encore. La philosophie, comme l'a dit Hegel, est comme un hibou qui ne vole qu'au crépuscule. La sagesse vient toujours trop tard. Et on le voit aussi dans la politique. C'est après coup qu'on peut expliquer, c'est après coup que viennent les historiens pour nous expliquer ce qu'on a raté. Ça veut dire que le présent, c'est toujours quelque chose qu'on est en train de rater. Ça ne me rend pas fataliste, mais il faut être modeste quand on pense qu'on peut expliquer le contemporain.
Je vous cite à nouveau, pas car vous ajoutez un substrat de complexité. Ma génération, dites-vous, a vécu dans une mentalité d'après-guerre. Le fondement de la démocratie a été pensé sur l'horreur de l'Holocauste, du fascisme et du nazisme. Aujourd'hui, nous entrons de nouveau dans une logique d'avant-guerre. C'est quelque chose que vous disiez à la radio belge en avril 2025. Ce qui me trouble encore, c'est qu'on a le sentiment que plus on vieillit, moins on est connecté à l'époque dans laquelle on vit, et par conséquent, moins aussi on est apte à la comprendre.
Et ça se peut que je suis devenu un vieux qui ne comprend pas
c'est
trop bien.
C'est pas ce que j'ai dit, je parlais des personnes âgées en général.
Non, je rigole. Mais je pense que, non, c'est un peu compliqué, c'est que les gens comme moi, de mon âge, on est devenus des témoins des temps que les jeunes n'ont pas connus. Parlons par exemple l'écologie. La nature que moi j'ai encore connue dans mon enfance n'existe plus. cette biodiversité, etc. Voilà, ça a disparu. Ça veut dire qu'il faut se rendre compte, quand on a un certain âge, qu'on est un témoin de quelque chose qui a disparu. Aussi bien les Trente Glorieuses, tout ce que moi, étant un boomer blanc, ce qu'on a connu comme situation économique, culturelle, mai 68, l'émancipation sexuelle, etc. On a vu que tout cela est tourné ou est tombé dans une nouvelle complexité. Seulement pour vous dire ce que j'explique dans mon livre, qu'il y a beaucoup des choses que les mai 68ards ont revendiquées sont maintenant en parodie, en forme parodiste, les thèmes du populisme de droite. Une liberté totale. Pas de respect pour les autorités scientifiques, etc., parce que nous, on est libres. La liberté que j'explique est devenue quelque chose de qui n'est plus le devoir du citoyen. La liberté, notamment de la Révolution française, n'est pas la liberté des gens cyniques d'extrême droite. Ça veut dire que beaucoup des choses qui ont été revendiquées par ma génération sont tournées dans quelque chose d'autre qu'on comprend pas trop bien. Et là, évidemment, on peut se sentir un peu perdu. La gauche, qui était très claire à cette époque-là, elle est perdue. Il y a le wokisme, il y a une certaine gauche qui est perdue, qui essaie de retrouver une certaine politique qui n'est pas trop moralisante, mais en même temps, on est moralisateur. Voilà, on est dans des crises, on est dans une période de crise.
Mais je vais quand même tenter de sauver, non pas le boomer que vous êtes, c'est vous qui le dites, mais en tout cas, les boomers, puisque si je reprends votre citation, vous parlez d'holocauste, de fascisme, de nazisme, c'est des concepts, ce sont des concepts que l'on mobilise encore aujourd'hui, que certains tentent de remettre au goût du jour pour lire justement le contemporain. Alors comment utiliser ces notions? Est-ce qu'il faut s'en prémunir? Est-ce qu'il faut les tenir à distance? Ou est-ce qu'elles sont pertinentes selon vous pour comprendre cette soi-disante nouveauté?
Il faut certainement économiser sur ce terme. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec toi, un fasciste, tu n'avances pas. Mais je crois que il faut voir ce qui est fascisant dans cette période d'un capitalisme oligarchique. Parce qu'il y a certainement un mouvement de droite dans le trumpisme, dans Meloni, dans Orban, etc. On voit que certaines notions de ce qu'on appelait fascisant sont de retour. Il y a par exemple un jeune philosophe hollandais, depuis quelques semaines seulement, a publié un livre sur le édo-fascisme, il veut dire l'édonisme. L'édonisme qui devient tellement fanatique, qui revendique son droit sur son édonisme total, qu'il est prêt à commettre des crimes contre la société et contre la justice, la justesse de la société. Ça veut dire qu'on est en train de bouger, faire des notions d'extrême droite, mais si on peut dire déjà que c'est fascisme ou non, je trouve ça un peu trop rapide et trop banal aussi bien. C'est trop banal. Ce qui se passe a une nouvelle complexité. C'est ce qu'on ne comprend pas étant contemporain.
En vous lisant, Stéphane Hertmans, ce week-end, en lisant cet ouvrage intitulé « Quel présent vivons-nous ?», un livre par ailleurs qui brasse énormément de notions et de sujets, je me suis dit que c'était peut-être un livre sur la connaissance, comment connaître, comment comprendre. Et vous partez d'un constat, le monde de la connaissance qui aurait dû nous être offert et nous être ouvert grâce à Internet, ce monde-là est l'inverse de ce que l'utopie d'Internet avait promis, c'est-à-dire un monde qui nous éloigne du savoir et un monde de la mésentente. Il faut nous expliquer pourquoi, selon vous.
Je crois que là, c'est la crise de la notion des lumières en regardant à travers ce que le numérique nous a apporté. Dans les années 70, le début de l'Internet, c'était du côté de gauche, c'était utopiste. On voulait donner la sagesse à tout le monde, pour ainsi dire. Et maintenant, on se rend compte que l'abus de l'Internet est beaucoup plus fort que l'emploi intelligent. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose comme ce qu'on appelle en anglais « literacy ». Il faut être déjà lettré pour pouvoir parler avec ChatGPT. Parce qu'autrement, il vous amène en quelque chose que vous voulez pas. Un jeune qui trouve qu'un mime est drôle, avec une caricature, et il clique dessus, et il va voir encore 5 autres, parce que l'algorithme lui nourrit. Il tombe dans un puits, sans fond. Ça veut dire que tout l'idéal des lumières, pour le moment, est mis à la preuve par le numérique.
Il y a un mot qui raconte bien, l'histoire d'un mot qui raconte bien, qui encapsule bien ce phénomène, cette tendance que vous décrivez, c'est l'histoire du mot computer, ordinateur en anglais. Il faut nous raconter la façon dont les francophones, les hispanophones ont tenté de le traduire et ce que ça implique.
Oui, évidemment, j'ai trouvé cette contradiction, pour ainsi dire, parce que ma langue maternelle, c'est le néerlandais, c'est le flamand, qui est une forme de néerlandais. Et chez nous, on emploie toujours le mot computer. To compute, ça veut dire faire une somme.
Compter,
en fait. Tandis que ordinateur, ça veut dire que peut-être il y avait quand même cette notion qu'on veut mettre un peu d'ordre dans le monde qui nous entoure.
Compter d'un côté, ordonner de l'autre.
Oui, ordenador en espagnol. Et je crois que ça parle d'une certaine notion de la connaissance. Est-ce que la connaissance peut être comprise complètement dans des termes numériques ou non? Est-ce qu'on est en train de mettre d'ordre dans un monde qu'on connaît pas, et quel ordre? On ne sait pas quel ordre. Je crois que le Trumpisme, par exemple, et ce que Elon Musk a fait avec les réseaux sociaux, avec X, nous montre qu'il n'y a pas d'outil neutre. Wittgenstein a écrit là-dessus que, est-ce que c'est possible qu'un outil est neutre, qu'il ne porte pas en soi déjà un certain emploi? Et je crois qu'on est en train de vivre une question très 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 compliquée dans notre époque, c'est que, est-ce que la sagesse, la rationalité, ce qu'on a toujours nommé la vérité, dans la tradition des Lumières, est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce qu'elle a profondément changé sans qu'on s'en rende compte? C'est un des déplacements duquel je parle dans mon livre.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un penseur que vous connaissez bien, car vous le citez abondamment, Bruno Latour. Il nous parle justement de ce qu'est, selon lui, pour lui, la post-vérité.
Mon interprétation de la post-vérité, c'est que, au fond, on ne peut pas être très intéressé aux questions empiriques et respecter la vérité quand on vit dans un monde qui n'existe pas. Et donc, le problème, c'est pas tellement le problème de la vérité, c'est le problème de la description du monde dans lequel on est. Et Trump et ceux qui le financent ou qui croient en lui, disons, et ceux qui votent pour lui, a décidé qu'il était dans un monde où la question écologique, que moi je considère comme l'organisateur de toutes les positions politiques en ce moment, n'a pas lieu d'être. C'est comme si vous étiez dans ce studio et qu'il y a un énorme éléphant qui soit là et qu'on fasse tous comme s'il n'existait pas. On aurait l'air un peu gêné, si vous voulez, on ne pourrait pas être considéré comme des gens respectueux de la vérité alors qu'on serait tous un peu embêtés, vous comme moi, de voir ce que c'est, ce gros éléphant, peut-être qu'il barrirait ou et dire non, ces choses-là n'existent pas. C'est, la post-vérité, c'est pas que les gens ont abandonné la question de l'empirique, c'est qu'on les amène dans un monde qui n'existe pas. L'énormité de cet éléphant, il y a un moment où il va peser dans la pièce et où il va bien falloir à un moment se retourner et se dire « Ah tiens, c'est amusant, il y a un éléphant où nous nous trouvons ».
La voix de Bruno Latour qui résonne encore, c'était en 2017 dans L'Heure Bleue. Stéphane Ertmans, alors pas d'éléphant ici dans ce studio. Comment vous décrivez vous-même la post-vérité? Comment vous la définissez?
Ben c'est déjà Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, qui disait « Il ne s'agit pas de la vérité, il s'agit de répéter nos mots, de répéter ce que nous on dit et ça va devenir la vérité ». Ça veut dire qu'ils se rendent bien compte de quelque chose qui est très connu dans la philosophie, c'est que la langue n'est pas descriptive. La langue ne décrit pas le monde, elle forme le monde. On appelle cela la constitution. La langue est constitutive. Ça veut dire que si vous dites quelque chose et vous répétez, ça va devenir la nouvelle vérité pour beaucoup de gens. Par exemple, avec le mot de déplacement, de grand remplacement, est devenu, dans des nouveaux congrès qu'on a eu d'extrême droite, rémigration. Vous allez voir dans les mois à venir que le mot rémigration va remplacer le mot de grand remplacement parce qu'ils se sont rendus compte que les gens comprennent que c'est quelque chose d'absurde. Il n'y aura pas de remplacement. C'est clair. Mais peut-être la rémigration, ça va peut-être aider. Ça veut dire que ce que Bruno Latour est en train de dire que la post-vérité, c'est qu'on dit des choses qui sont imaginaires et qu'on reste dans l'imagination, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'avec le rôle constitutif de la langue, on forge une nouvelle vérité. Et on forge quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui est ressenti comme une vérité. Et on le fait aussi bien avec la science. On l'a fait pendant la pandémie Covid, sur laquelle j'écris quelques chapitres. Il y avait des gens qui ont forgé une réalité, pour ainsi dire, une vérité qui n'était apparemment pas la vérité scientifique, mais qu'il voulait croire. Et ça peut devenir une force politique très menaçante.
Justement, on connaît le rapport singulier, c'est moins qu'on puisse dire, de Donald Trump à la vérité, au langage, à la post-vérité. Vous, celui, j'allais dire, qui concentre votre offensive, vos attaques, c'est le président russe Vladimir Poutine que vous qualifiez de Méphistophélès du sophisme et donc le chantre de la post-vérité. Expliquez-nous pourquoi.
Je crois que le Kremlin est le maître absolu pour nous forger une réalité qui n'est pas là. Est-ce qu'on dit bombarder en français? Non, on dit de mettre des bombes.
On peut bombarder, absolument.
On peut bombarder. De bombarder une ville et de dire non, on n'a pas fait. De tuer quelques gens avec des tueurs qui se trouvent partout en Europe. Non, on n'a pas fait tout ça. Et ce mensonge, cette politique de mensonge qui était très 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 forte aussi sous Staline, était de nier ce qu'on avait fait et de dire c'est à vous de prouver qu'on l'a fait.
Mais est-ce que c'est ça la post-vérité ?
Et il maîtrise cela.
Est-ce que c'est ça la post-vérité ? Est-ce que c'est, j'allais dire, le pur mensonge, le mensonge franc et massif ? Ou est-ce que c'est au contraire jouer sur les ambiguïtés, sur les ambivalences ? Quelque chose d'ailleurs que Donald Trump fait sûrement d'une manière plus savante.
Oui, écoutez, il joue sur l'échiquier, il voit de jour en jour ce qui se passe et ils n'ont pas de vraie politique, ils ont une attitude de gangster et ils s'adaptent chaque jour et ils voient ce que, le jour en jour, ce qui est là. Ça veut dire qu'avec une idéologie, on ne peut pas les déchiffrer, puisqu'il n'y a pas d'idéologie, il y a un opportunisme et un cynisme. Et avec cet opportunisme et cynisme, tu peux faire ce que tu veux, parce que tu nies ce que tu as dit l'autre jour. Comme Trump qui a dit qu'il allait résoudre la crise en Ukraine, et puis il dit, ben non, c'est Poutine qui est devenu fou, il l'a dit hier. Ça veut dire qu'on n'a rien de palpable, on n'a rien sur lequel on peut bâtir pour un dialogue avec ces gens-là, parce qu'on ne sait pas. Et je crois que ce cynisme-là a toujours été le cynisme des dictateurs, des régimes totalitaires. Le régime totalitaire, c'est que, comme Anna Arendt a dit, ce n'est pas de nier quelque chose, mais de dire n'importe quoi. Et de continuer à dire n'importe quoi jusqu'au moment que les gens disent il faut se méfier de tout le monde. C'est là qu'ils veulent aboutir. Que les gens dans la rue disent « Ah, il ne faut pas croire les politiciens, il ne faut croire personne, parce que tout le monde est opportuniste, tout le monde est cynique, alors je suis cynique. » C'est là où ils veulent vous avoir. Et c'est là que cette nouvelle ordre de politique est en fait une ordre d'absence de politique. Il n'y a pas de politique pour le moment.
Est-ce que vous croyez encore, Stéphane Hertmans, comme vous le décrivez justement dans votre dernier ouvrage, que le savoir, c'est le pouvoir, pour reprendre notamment l'expression de Francis Bacon ? Est-ce que c'est encore le cas ?
Bon, il y a une très belle expression en irlandais d'un poète néerlandophone qui a dit « Tout ce qui a de la valeur est sans armes, ne peut pas se défendre. » Ça veut dire que la connaissance est lente. La connaissance, ça demande un temps de parler. Ça demande que vous me laissez parler, former une phrase dans une langue qui n'est pas la mienne, etc. Tandis qu'on voit que, sur les plateaux, les populistes l'emportent toujours. Parce qu'ils sont très rapides et ils disent n'importe quoi. Ça veut dire que le savoir n'a pas cette valeur qu'on a toujours espérée dans la tradition des Lumières. C'est que le comportement l'emporte sur le savoir. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux.
Vous commencez votre livre en posant trois sujets majeurs qui transforment en profondeur le monde dans lequel nous vivons. Le premier, c'est le changement climatique. Le deuxième, c'est la mondialisation. Le troisième, dites-vous, ce sont les flux migratoires. Pourquoi, selon vous, ces trois changements-là transforment-ils à ce point notre univers, nos perceptions des choses et du monde ?
D'abord parce que la notion, ou même ce que veut dire la globalisation, a changé entièrement. On a vu que l'hémisphère du Sud n'a pas envie de nous croire quand on vient leur dire que c'est à eux de résoudre la crise écologique, par exemple. Il y a des tensions géopolitiques, il y a des tensions économiques, il y a un monde qui est en train de basculer entièrement. Et je crois que tout ce qu'on voit se passer aujourd'hui, c'est une question de méfiance. Il n'y a plus de confidence, il n'y a plus de construction sur laquelle on est en train de travailler. Et là-dedans, on ne voit pas assez comment tous ces éléments fonctionnent les uns dans les autres. Bruno Latour a écrit là-dessus que, par exemple, la crise écologique est une nouvelle lutte de classe. La migration sera un effet encore renforcé par la crise climatique. La crise climatique, avec la globalisation, la post-globalisation dans laquelle on se trouve, forme maintenant une force, une énergie qu'on ne peut pas prévoir dans quelle direction elle va nous mener. Cela dit, je crois qu'on vit dans un temps de complexité. Et j'ai écrit aussi sur le fait que beaucoup de gens, certainement en Occident, vivent avec une subjectivité, un monde subjectif à eux. C'est mon monde à moi, c'est ma vulnérabilité.
On peut imaginer que c'est la même chose un peu partout dans le monde, d'ailleurs.
Oui, maintenant, certainement, avec l'Internet, que la nouvelle génération parle de ses soucis à eux et revendique le droit d'en parler, ce qu'ils ont, je connais. Mais en même temps, où est-ce qu'on en est avec l'espoir d'une certaine objectivité? Et ça renoue avec votre question sur la post-vérité. Est-ce que c'est possible de penser une idéologie pour les temps à venir? Idéologie, c'est un mot qu'on a oublié, qu'on a bétonné complètement. Mais peut-être il faut oser penser de nouveau. Est-ce que ce serait possible, avec tout ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui, de forger quelque chose qui est comme une idéologie et qui nous donne un savoir, une théorie globalisante qui peut tenir compte avec tous ces éléments qu'on voit dans le monde, qui nous déchire, et de les mettre ensemble pour trouver une signification nouvelle.
Et selon vous, Stéphane Hertzmans, là aussi, je vous paraphrase, mais la tendance que nous partageons à nous recroqueviller sur l'intime, sur la sphère privée, sur la subjectivité, cette tendance-là nous empêcherait de pouvoir construire un nouveau système de pensée, une nouvelle grille de lecture, une nouvelle idéologie, pour reprendre votre terme, qui nous permettrait de comprendre ce monde en profonde mutation?
Ce que je vois avec tous les mouvements activistes et woke, je vois qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont sociaux, sont des thèmes
de justice sociale.
En même temps, on voit qu'ils n'ont pas de force politique. Ils ne pensent pas politique. Ils pensent individualiste. C'est l'ego. Et on croit que si tout le monde témoigne de sa situation individuelle, on va changer le monde avec tous ces témoignages dans la littérature, dans la musique, dans le théâtre, etc. Tandis que on a besoin d'un mouvement, d'une dimension politique de cet activisme. Et je vois maintenant une brèche entre l'activisme des écologistes, de genre, de postcolonialisme, de couleur, les gens de couleur. On voit que tous ces noyaux ne sont pas réunis dans une nouvelle théorie politique. Et c'est ce qui nous manque. Il nous faut urgemment une nouvelle grande théorie politique.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Pierre Jasserme. Il parle d'Heidegger, un philosophe là encore que vous connaissez bien, et sur deux notions qu'il rapproche, habiter d'une part, exister de l'autre.
L'homme a ses jours, il a ses jours, en tant que parlant, et s'il écoute cette parole qui parle, alors il peut, pour ainsi dire, entrer dans une nouvelle relation. Il peut habiter cette relation, et il peut exister, c'est-à-dire à ce moment-là, exister, habiter, ça a à peu près le même sens. Ça veut dire, je suis au monde, j'existe, je suis au monde. Habiter en poète, c'est être au monde en dégageant cet espace inhabituel, cet espace insigne, cet espace merveilleux où je peux reconnaître que les choses sont, c'est-à-dire dans toute leur dimension de présence, dans toute leur dimension d'être.
On dirait presque Stéphane Hertzmans, du Stéphane Hertzmans dans le texte, non ?
Oui, presque, oui, évidemment, parce que je crois que la lecture de Heidegger de nos jours est totalement différente de la lecture même de Derrida et de Foucault.
Pourquoi ?
Parce qu'on voit maintenant qu'il y avait en lui un écologiste. On a beaucoup rigolé avec le fait qu'il était dans la forêt noire, qu'il voulait pas aller à Berlin pour donner des cours à l'université.
Il se tenait loin du monde, oui.
Voilà. Mais toute sa théorie, il a écrit des essais sur le fait que l'être humain doit rester proche de la Terre pour comprendre ce qu'il doit faire dans sa vie. L'existentiel, c'est de ne pas seulement vivre dans le monde, mais aussi sur la Terre. Et là, on voit le lien entre Heidegger et Bruno Latour. Et s'il y a un grand thème de nos jours, c'est que il nous faut commencer à penser de ne plus construire le monde comme on l'a fait pendant 500 ans. Il faut construire la Terre. Et la Terre avec un monde. Parce que la Terre a commencé de subir des dégâts énormes par le monde humain. Et tout cet humanisme doit se reforger. Et il y a pas mal dans Heidegger pour trouver de l'inspiration, pour voir comment un nouveau humanisme dans le sens de l'écologie et le respect de la Terre et les êtres humains et la vulnérabilité des êtres humains pourrait donner inspiration pour trouver une, notamment cette politique englobante tout.
Merci beaucoup Stéphane Hertmans. Lire donc Heidegger, c'est le premier conseil. Lire Stéphane Hertmans et cet ouvrage intitulé « Quel présent vivons-nous ?» Cela vient de paraître aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer les choses dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Merci encore.
Merci à vous.